RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, le 15 de France va-t-il réussir la passe de 3? 3 victoires consécutives lors de la tournée de novembre, ce qui n'y est plus arrivé depuis 9 ans maintenant. Cette question, eh bien, c'est celle que tout le rugby français se pose au lendemain d'un large mais peu probant succès face à la Géorgie. Les Bleus qui, samedi prochain, vont donc affronter les All Blacks, l'équipe la plus redoutée de la planète. Redoutée, oui, mais est-elle aussi redoutable que le prétend sa réputation? On en débattra dans la mêlée des poteaux. Et avec quels joueurs les Bleus vont-ils se présenter au Stade de France? Là aussi, mystère et boule de gomme après les derniers essais effectués par Galtier ce dimanche. Jalibert en 10 et Ntamack en 12, ou bien Ntamack à l'ouverture et Jalibert à l'arrière, ou encore une troisième solution. On ne sait plus trop à quel sein se vouer. Il en est en tout cas qui a marqué les esprits ce week-end, c'est Cameron Wauki, le Bordelais, tout aussi à l'aise en deuxième qu'en troisième ligne. Il est notre frelon du week-end. Et puis pour terminer, nous évoquerons dans notre rubrique French Cancan cette réforme que devrait prochainement adopter World Rugby. Elle concerne l'éligibilité des internationaux, réforme qui pourrait bien changer les choses, notamment en ce qui concerne les petites nations du Pacifique, et ce dès la prochaine Coupe du Monde en France. Les poteaux, les voici, les voilà, avec tout d'abord un manager à succès que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Voilà, victoire incroyable, il nous revient d'une tournée triomphale à Lyon où il n'a bu que de l'eau minérale pendant une semaine. Voici le patron des Babaz, Denis Charvet.
Ils ont gagné partout les Babaz, ils ont même gagné à 7.
Eh oui, partout, carton plein. Et tu es aussi manager des Babaz à 7?
Bon, pour organiser, mais après il y a des managers qui sont en place.
T'as touché une prime? C'est ce que j'allais demander, double prime là pour toi ou pas?
Non, par contre il y a une prime pour le vainqueur du 7. Une belle prime.
Ouais. Mais ça va au c'était pas à 7, club, c'était à la défense en plus.
Ça va au Barbara dans le rugby club.
D'accord, très bien. Bravo en tout cas, Denis. Hein. Belle victoire contre le Tonga.
Et bravo aux joueurs, surtout, avant tout.
On va les féliciter aussi parce que du talent, ils en ont à revendre. Voici le trio magique d'RMC composé de Jeff Paturo, Wilfried Templier et Pierre Amiche. Salut les artistes.
Bravo.
Je nous applaudis parce que personne ne le fait. Donc,
c'est agréable.
Qui s'auto-applaudit.
Bonjour, rien bonjour à applaudir tous. Hein, en même temps.
Ouais, ça fait du bien.
41-15, 6 essais à 2 a priori. Comme ça ressemble à une promenade de santé pour les Bleus. Mais ce match contre les Géorgiens n'a pas été aussi simple que le montrent les chiffres.
C'est parti. Jalibert donne le coup d'envoi de ce France-Géorgie, le deuxième de l'histoire. Attention, on a récupéré la touche du Pomplet sur l'extérieur. Il n'y a plus personne sur l'extérieur. Ntamack pour Jalibert. L'essai français. La longue sautée sur l'aile droite pour Tabutate. Il y va. Essai accordé à Tabutate pour la Géorgie. William Sekimé qui met le ballon à disposition de Lucu sur l'extérieur avec Ntamack pour Penaud. Nouvel avantage pour les Géorgiens. Fin de passe. C'est l'essai. Ça avance bien, ça va dans le but et c'est l'essai. Essai français. Et après le doublé de Penaud, c'est le doublé de Peato Movaca. Transformation de Jalibert sur le poteau. Deuxième échec de Jalibert. Et c'était la dernière action de ce match. Victoire de l'équipe de France, 41-15 face à la Géorgie.
La victoire est donc là, c'est l'essentiel. C'est aussi la 13e en 19 rencontres pour la bande à Galtier. Oui, mais avec ces Bleus, on est devenu très exigeant. Et cette victoire, comme celle de la semaine dernière, n'a pas convaincu tout le monde. Succès brouillon, désorganisé. Messieurs, les Bleus vous ont-ils régalé ou inquiété ce dimanche à Bordeaux, Denis?
Bah, inquiété, non, parce que tu joues la Géorgie, on sait très bien que la préparation, ça va pas être la même samedi contre les Blacks. Donc, on n'a jamais été très fort quand on est archi favori, ce qui était le cas hier. Donc, inquiété, non. Après, il va falloir remettre un petit peu de l'ordre dans notre défense. Je sais que la défense, quand même, c'était c'était ça, notre grande force collective, c'était d'asseoir une défense. Et hier encore, contre la Géorgie, tu fais passer, tu perds des duels, des passes à des Géorgiens qui ont essayé, qui ont tout tenté et qui ont plutôt été enthousiasmants, je trouvais. Mais...
Alors, toi, t'es pas inquiet, mais on peut être déçu quand même, Jeff.
Franchement, il y a 20 minutes où on peut faire une petite sieste, on rate rien.
Non, mais c'est... personnellement, en studio, c'est ce que j'ai fait. Hein. Mais bon, il y avait Denis et Wilfried qui hurlaient dans mes oreilles.
Oui, heureusement, parce qu'il pouvait vivre un peu le match. Mais c'est vrai que c'était un petit peu décevant. La Géorgie, c'est vrai que c'est pas le match le plus facile pour savoir exactement où on en est. C'est pas les grosses oppositions. Mais c'est vrai que ça s'enchaîne aussi avec cette victoire la semaine précédente contre l'Argentine qui avait été laborieuse. chose. Et c'est vrai que sur cette tournée actuelle, on n'a pas l'impression que le 15 de France avance véritablement. Il y avait une progression depuis le début du mandat de Fabien Galthié. Et là, on est un petit peu à l'arrêt. Je ne sais pas si on stagne ou si on va revenir plus fort contre la Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai qu'on a le droit d'attendre beaucoup mieux de cette équipe de France.
Alors oui, il faut rappeler aussi qu'il y avait pas mal de changements par rapport à l'équipe qui avait débuté face à l'Argentine. Ça peut aussi expliquer les approximations de ce 15 de France ?
Ou peut-être un peu, mais ça ne devrait pas en fait, hein, parce que il y a 42 joueurs, il y a un groupe de 28 puis de 23, et c'est la deuxième semaine de travail. Alors il l'a répété, oui, on a 9 mois entre ce groupe-là, entre le dernier match et la tournée d'automne. Donc oui, il faut un peu de temps, mais ça fait 2 ans de travail maintenant pour Fabien Galthié et son groupe. Et c'est vrai, on y reviendra peut-être, mais de chambouler tout dans la ligne de 3 quarts, notamment en deuxième mi-temps, ça doit pas aider. Mais moi, ce qui me manque par rapport au match abouti qu'on a connu de cette équipe, c'est le manque de maîtrise, justement. Parfois, alors chacun y va de son petit en avant, ta petite faute et tout, et dans la redistribution, c'est plus aussi fluide qu'avant. Alors, est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce qu'ils changent des choses actuellement ? Certainement, parce qu'ils ont plus le jeu de dépossession, enfin, moins le jeu de dépossession qu'ils avaient. Souvenez-vous, hein, premier tournoi, premier match, c'était
ils l'ont retrouvé un bel armement hier, quand même. Ouais. Enfin, très peu, mais ouais. moi, c'est vrai
donc,
que...
Donc, ils innovent, peut-être. Donc, il faut digérer ça, peut-être.
Ouais, non, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on avait quand même quelques certitudes. Souvenez-vous, quand on est un joueur en Angleterre et une équipe remaniée, on a failli battre les Anglais chez eux. Après, il y a eu l'Australie qui était quand même le tournoi qui était avec quelques certitudes.
À chaque fois, on était outsider dans ces matchs-là, alors que là, on était donné grandissime favori. Ça, on ne sait pas gérer.
Mais malgré tout, il y avait un système de jeu en place, il y avait quand même des certitudes et que tu n'as plus aujourd'hui. Je trouve que le jeu, c'est un peu délité, que dans l'alternance aujourd'hui, et même Dupont, il est un peu perdu. Je suis désolé, mais même ce match hier, il a aucune maîtrise, Antoine, ou très peu. C'est pas que lui, ça veut dire aussi que les avants ont été un peu sous pression, ça veut dire que tu domines pas comme tu devrais dominer. Donc il y a plein de raisons aussi.
Moi je pense qu'il faut tirer aucun enseignement de ce match-là. Je suis désolé, les Français, ils ont joué en claquette pendant 45-50 minutes sans avoir une véritable volonté de gagner les duels. Il fallait surtout pas se péter avant les Blacks. Il suffit de regarder les chiffres. Je pense qu'on a des chiffres offensifs qui sont absolument faméliques pour une équipe de France, a fortiori face à une toute petite équipe de Géorgie. Je vais y revenir en 15 secondes. On a passé les bras 6 fois. C'est famélique pour l'équipe de France. C'est l'une des nations qui fait le plus de offload sur la planète face à la Géorgie. 6 passes après contact, ça veut dire qu'on n'a pas gagné les duels. 15 mauvaises passes, ça veut dire qu'on n'a pas été capable de créer quelque chose d'autre que simplement aller faire péter les gros sur des temps de jeu assez simplistes. Et puis ce qui est assez terrifiant aussi, c'est 6 franchissements. Ça veut dire qu'on a marqué quand même quelques essais, hein, mais sans jamais franchir, parce qu'on a réussi à s'affirmer sur les ballons portés. Et puis il faut quand même le dire, l'équipe de Géorgie en face, moi qui suis un de leurs premiers défenseurs depuis longtemps, qui a longtemps plaidé pour peut-être essayer de les faire intégrer le Six Nations, parce que c'est un rugby qui a progressé, bah, je suis désolé, c'était une équipe assez faible, voire très faible. Aujourd'hui, les Géorgiens ne sont pas capables de proposer quoi que ce soit.
Après, ils jouent jamais.
Oui, c'est vrai, mais finalement, quand ils jouent face à l'Italie, ils ont perdu, face aux Fidji.
Et c'est leur premier match, hein, ils n'avaient pas joué le week-end d'avant.
C'est sévère avec eux, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Hein,
je ne suis pas sévère, je suis déçu. Ouais. Et parce que je les trouve décevants. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont proposé, les Géorgiens ? Il y a eu un essai en première main.
Ils ont été extrêmement sanctionnés. Hein.
Oui. Ouais. Oui, indiscipline, 2 cartons jaunes, un essai de pénalité.
Mais sévèrement arbitré, moi je dirais sévèrement. L'essai de pénalité en première mi-temps.
Très sévèrement, mais de toute façon,
le capitaine l'a dit en conférence de presse, Shari Kadze. Il a dit on a vu des choses aujourd'hui, j'aime pas m'attarder sur l'arbitre.
Arbitré comme une petite nation, quoi.
Oui, t'es arbitré comme une petite nation, tout à fait, tu as raison.
Alors, juste un mot, tiens, quand même, sur le sélectionneur qui. Un peu vexé quand même, hein, qu'on remette en doute son magnifique match de l'équipe de France. Il est susceptible quand même, Galthié, hein, Jeff.
Non, il a du caractère, mais est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que Fabien Galthié
la première fois qu'on n'est pas dithyrambique.
Je trouve qu'il redevient Fabien.
Ah d'accord.
Ah oui, Fabien est revenu. Ce comeback.
Donc il a boudé, racontez-nous ce qui s'est passé.
Il boude parce que Galthié.
Conférence de presse hier après match, première question pour Antoine Dupont, une analyse assez classique de la rencontre, rien de révolutionnaire. Le micro après la même question pour Fabien Galthié. Et toi, Fabien, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis d'accord avec Antoine. Voilà, fin de la réponse.
Ça tombe bien, on l'a passé en direct sur RMC.
Autre réponse plus tard dans la conf. Oui. Et c'est tout. Et à la fin, il s'adresse à Antoine Dupont et il lui dit on les a épuisés, je crois, à propos des journalistes.
D'accord, il ne pensait pas qu'il était en
Et je crois qu'on peut confirmer, Wilfried.
Il nous a un peu épuisé. Non, mais ça peut pas être quand il veut, Fabien, parce qu'il peut être excellentissime quand il explique le jeu. Bah, bien sûr, quand il explique le jeu, et puis quand il veut, il veut pas. Enfin, ça fait des mois, hein, Jeff, au compte de presse, quand il veut pas répondre à les questions, il répond complètement à côté. Mais ça m'est arrivé, Edimbourg, après la défaite, à la fin, de lui dire, mais tu m'as pas répondu, là, en fait. Il a dit quelque chose qui avait rien à voir avec la question. Et là, il a pas envie et il dit pas, donc ça l'énerve peut-être certaines critiques. Mais bon, vous savez, c'est l'habit de sélectionneur, il doit quand même répondre à tout ça, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu tôt quand même. Normalement, les sélectionneurs, c'est vers la Coupe du Monde que ça commence à grincer.
C'est le tournoi avant la Coupe du Monde, normalement. Ouais, là, bon, il y a un petit peu d'avance.
Alors, malgré tout, il y a quand même quelques secteurs qui ont très bien fonctionné dans cette équipe de France, comme celui de la mêlée ou encore la touche. 19 lancers réussis, plus un ballon volé aux Georgiens. Rampe de lancement idéale pour les groupes pénétrants qui ont permis quand même d'inscrire 3 des 6 essais français. Et si le secteur de la touche a été aussi performant, les Bleus le doivent en grande partie, à Cameron Hockey, le Bordelais désigné frelon de la semaine.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Hockey, donc le flanqueur bordelais qui ce dimanche, où Wilfried était pour la première fois titularisé dans la cage, en deuxième ligne, ça n'a plus eu l'air de le perturber plus que ça. Hein.
Bah non, parce que ça a été un des Français les plus en vue, en tout cas on va dire le meilleur devant, peut-être le meilleur avant, hein, de l'équipe de France, et ça on a l'impression que c'est dans plus en plus le cas pour Cameron Hockey, champion du monde U20, qui vient de fêter ses 23 ans. Depuis sa première sélection face à l'Angleterre, le premier match de l'ère Galtier, il a pris le bon wagon, même si, alors durant ce premier tournoi, derrière le capitaine Charles Olivon, c'est plutôt le Lyonnais Dylan Cretin qui était devant lui, mais il va profiter de deux moments en fait pour marquer des points. Le premier à l'automne l'an dernier, quand les accords entre les clubs et la Fédé limitaient le nombre de matchs des joueurs, il joue contre l'Italie et surtout il joue la finale de l'Autumn Nation Cup à Twickenham contre les Anglais, finale perdue en prolongation, mais souvenez-vous, avec une équipe très remaniée, il y avait une très grande performance des Français. Donc toujours derrière Cretin lors du dernier tournoi Destination, c'est ensuite son deuxième moment, la tournée en Australie cet été, où là il a été vraiment énorme, remplaçant au premier match, il enchaîne les deux autres tests, dont la victoire à Melbourne. Bon en touche, 7 prises hier pour Cameron Hockey. On aime son envergure, sa dextérité. Et c'est donc lui qui a pris la place de numéro 7, reléguant Cretin hors des 23 carrément. Parce que ce staff cherche en priorité la polyvalence des joueurs, ça tombe bien. Woki peut évoluer en deuxième ligne. On le teste cet automne sur l'axe gauche. C'est là où il a fini les 11 dernières minutes du match face à l'Argentine. Et tu l'as dit, où il a carrément débuté contre la Géorgie. Moi, je le préfère en troisième ligne. Mais bon, ça compte quand vous avez ça dans votre panoplie. Et lui, il était en direct sur RMC après le match. Il a eu beaucoup d'émotions chez lui à Bordeaux. Écoutez-le.
Retour à la maison avec un poste que je n'occupe pas d'habitude. Donc, c'était forcément un match spécial pour moi. Mais voilà, j'étais très, très, très heureux et très content de jouer ici au Bakhmut. J'avais beaucoup d'émotions qui me traversaient. Et puis, j'ai adoré de jouer sur ce poste que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris énormément de plaisir.
Voilà, il a pris du plaisir. Il l'a dit, c'est un rêve d'affronter les All Blacks à Milieu Stade de France. Mais si on peut penser, imaginer qu'il sera sur le terrain en coup d'envoi, peut-être.
Alors oui, mais sur le terrain, d'accord, mais en deuxième ou troisième ligne ?
Non, troisième ligne. C'est d'accord. Sûr, c'est certain, mais il est surprenant. Hein. C'est un joueur qui a... Moi, je trouve qu'il a énormément progressé cette dernière année. Il a vraiment pris une dimension qu'on espérait, mais qu'on voyait pas venir forcément. Et là, il s'épanouit. Je pense que la tournée en Australie lui a fait le plus grand bien, qu'il a pris conscience de ses qualités. Et aujourd'hui, il va devenir, pour moi, incontournable.
Woki, donc désigné frelon de la semaine. D'autres auraient pu également décrocher ce trophée si convoité. C'est le cas par exemple de Romain Ntamack, qu'on a retrouvé quand même ce dimanche. Le Toulousain qui a d'abord évolué au centre avant de passer à l'ouverture. Il n'y a pas à tortiller, c'est quand même en 10 qu'il est le plus fort, non, messieurs?
Oui, en 10, mais bon, il est tellement doué ce garçon. Donc on espérait, je pense que, je le dis depuis longtemps, je pense qu'il il y va à contre-cœur. Tant qu'il ne voudra pas jouer à ce poste-là,
Ça a été mieux.
À une équipe.
Vous avez vu comment il était utilisé.
D'accord, mais regardez l'équipe qui est en face. Assez... Attendez, mais tu. Même moi, enfin, oui. Même Pierre.
Peut-être pas moi.
Non, mais je veux dire, par là, c'est. Tu peux pas juger ce que tu disais, Pierre. Tu peux pas prendre des. C'est pas possible.
Il y a eu aussi une différence par rapport au premier match, c'est ce qu'explique Gaël Ficou. C'est que c'est Gaël Ficou qui faisait un peu le travail de l'ombre. Et c'est lui qui allait au contact.
Il faisait le point de fixation.
Et pour que Romain Ntamack reste debout. Et c'est vrai que ça s'est vu hier, parce qu'on les trouve un peu plus facilement sur leur association Ntamack-Jalibert. Il y a un peu plus de passes, il y a un essai. Bon, là, évidemment, même Pierre ou Denis l'auraient marqué. Mais c'est vrai que ça se passe un peu mieux, quoi.
Mais c'est là où ça devient incompréhensible quand il sort à la 55e minute, il sort l'arrière.
T'as été énervé. Hein,
ah, j'ai été énervé. Mais moi, je ne comprends pas.
Configuration
tactique. Au moment où tu mets un système en place pour acquérir des des automatismes. Comment tu vas, à un moment donné, faire exploser cette association au titre de dire on va voir Jalibert à l'arrière? Non, Jalibert à l'arrière, ça ne s'improvise pas, on ne sait pas.
Mais je comprends ce que tu dis. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je comprends. Mais je ne suis pas d'accord.
C'est pas logique, en tout cas.
Moi, je comprends ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est on a deux joueurs extraordinaires, il faut tester tous les moyens possibles de les associer pour voir si par hasard. Par hasard, il n'y a pas une formule qui est géniale. On n'est pas à l'abri de tomber sur un truc qui marche. Regardez les Blacks avec Jordi Barrett et Boden Barrett. Ils ont testé tout ce qu'ils ont pu. Jordi Barrett à l'aile, à l'arrière, Boden Barrett à l'arrière, Boden Barrett en 10, Richie Mounga. Ils ont fait des tests pour essayer de trouver la formule la plus cohérente et la plus, on va dire, la plus efficace. Moi, je ne suis pas contre l'idée de tester Jalibert ailleurs.
Alors, les mettre tous les deux.
Jalibert à l'arrière, c'est la formule C. Hein.
Non, mais
parce
moi,
que Jaminet, ça va être le titulaire maintenant, c'est le buteur. Donc, Jalibert, c'est vraiment en cas de coup dur, de blessure à l'arrière.
C'est un problème de choix. Moi, je ne suis pas d'accord.
Il le teste quand contre la Géorgie,
à partir du moment où tu
pas contre les Blacks.
À partir du moment où tu mets les deux sur le terrain, pour moi, M'Tamak est titulaire en 10 et tu mets Jalibert à l'arrière. Voilà. Mais moi j'y crois pas à cette association Jalibert M'Tamak parce qu'ils ont pas envie.
Il faut arrêter de mettre Jalibert à l'arrière ou qui est en deuxième ligne et
pourquoi ?
Il faut peut-être faire les joueurs à leur poste aussi.
Comment ils font les Blacks ?
Faut faire jouer les joueurs les meilleurs.
Et oui.
Dans les meilleures dispositions possibles.
N'importe quel poste alors.
Mais c'est pas une question.
Jaminet au talon par exemple.
Non, il faut pas être complètement crétin, mais on s'en fout des numéros qu'ils ont dans le dos. Dans l'animation, on s'en fiche complètement de savoir si c'est Jalibert en 10 ou M'Tamak en 12 qu'a le numéro dans le dos, on s'en moque. Parce que finalement, je vous explique en deux secondes et je vais pas rentrer dans la technique pendant trois plombes, mais simplement c'est un arrière peut être utilisé comme un deuxième ouvreur sur les renversements ou sur les 3 à 4e temps de jeu. Ça veut dire que Jalibert, il peut très bien venir attaquer la ligne comme un 10 alors qu'il a le 15 dans le dos. C'est pas important. L'important, c'est l'équilibre.
Ils ont envie de jouer ensemble.
Et en défense, c'est sous les chandelles.
En défense sous les chandelles, Jalibert, il a quand même déjà joué 15 en club.
On fantasme un peu parce que il faut revenir à la logique de Fabien Galthié. La logique de Fabien Galthié, c'est de mettre aussi des joueurs à leur poste.
Alors, quelle sera la logique adoptée justement pour le
contre les Blacks
le week-end prochain?
On peut faire des paris.
Moi aussi,
il veut refaire des paris. Il veut refaire des paris. Croyez-vous
déjà?
Moi, je vous dis que
on auront déjà le premier.
Romain Tamak.
À ce propos d'ailleurs,
je pense que Romain Tamak sera en 10. Tu paries quoi?
Ce que vous voulez.
Encore un resto, combien d'étoiles cette
vous verrez.
Non, mais je suis d'accord avec Denis. Je pense
ça n'annule pas ton premier pari. Hein,
non, c'est clair, tu le dois toujours. Mais cette fois, je suis d'accord avec Denis. Je pense que Romain Tamak va être en 10. C'est une façon de le récompenser aussi de sa patience et de sa gentillesse d'avoir été un peu malléable.
Moi, je pense qu'il va le faire jouer en 10 pour
dentifier. Il est gentil, voilà. Il est le milieu de terrain.
Moi, j'y crois pas.
Ah oui, tu crois pas.
Ouais, moi je pense que
pourquoi sera... Qu'est-ce qui te fait dire
Fabien Galthié va aller au bout de sa logique sur les trois matchs.
Ah ouais. Et remettre Jalibert M'Tamak.
C'est ce que le fonctionnement du staff depuis des mois.
Mais écoute, il va nous surprendre encore une fois.
Moi je vois bien Jalibert en finisher, les fameux finishers, et débuter sur le banc.
Alors, il serait désavoué par rapport aux deux premiers matchs. Ça voudrait dire que Jalibert a été titulaire face à l'Argentine, face à la Géorgie, mais qu'il ne mérite pas de l'être face aux Blacks.
Non, je pense
c'est
que
quand même un sacré désavoué.
Christophe, il y a une autre donnée à prendre en compte. Il y a une autre donnée à prendre en compte, c'est que les Blacks ont perdu. Donc le match samedi, ça va être un autre match encore qui nous attend. Donc si tu veux, le problème, il va réfléchir aussi par rapport à l'opposition. Et que là, des Blacks qui sont piqués comme ça, ça va être un combat très très compliqué, enfin rude, et peut-être que Danti au centre s'imposera.
Les artistes
en milieu. Ça veut dire si tu veux gagner le match, peut-être
Danti. Normalement. Dans le fonctionnement, c'est Jalibert M'Tamak, mais on peut ne pas être débile non plus et se dire, comme tu dis, Denis, densifier le milieu de terrain. Eddie Jones l'a fait, des fois il mettait genre Farrell et Ford, et des fois il mettait Twilagi. Donc, je sais pas. Mais je suis d'accord avec Jeff, si on suit le fonctionnement de ce staff, ils vont au bout de leurs idées. Maintenant, stratégiquement.
Cap donc maintenant sur la Nouvelle-Zélande. Alors, juste un tout petit mot quand même, Marchand forfait pour
Marchand forfait,
le match.
Makelou sans doute forfait aussi.
Qui s'est appelé à la place de Marchand?
Il y a Bourgaret qui a été rempli en plus dans le groupe des 14, c'est qui joue jamais.
Il y a Barlow qui
Déjà Gaëtan Barlow derrière Movaka.
Ouais, ce sera Movaka, Barlow et peut-être Bourgaret si l'un des deux se fait mal.
Ok, nous verrons ça. Cap donc maintenant sur la Nouvelle-Zélande que les Français n'ont plus affronté depuis 3 ans et demi. Les Blacks contre lesquels nous restons quand même sur 14 défaites consécutives. C'est énorme, 14 défaites. Le dernier succès remonte à juin 2009. Une victoire 27-22 à Dunedin. Alors, fin de série, samedi prochain. Comment les Bleus appréhendent ce match, Jeff?
Cette fois, ils ont bien voulu en parler, puisque depuis le début de la tournée, c'était dans un coin de la tête, mais ils se projetaient uniquement sur le prochain match, match après match, comme on dit dans le milieu des sportifs. Denis, c'est comme ça qu'on parle quand on est sportif.
Absolument, oui.
Et c'est vrai qu'une confrontation contre la meilleure équipe du monde, c'est forcément particulier, surtout que le contexte l'est tout autant, puisque les Blacks, pour une fois, ils ont été battus le week-end dernier en Irlande. L'exemple est tout trouvé, l'analyse de Fabien Galthié.
Les Irlandais ont été en capacité de sortir un match fantastique. Il n'y a pas de superlatif pour parler de leur performance et de leur prestation. Malgré ça, le match se joue, je pense, à une décision de l'arbitre sur l'essai refusé sur une passe en avant. Ça en dit beaucoup sur l'adversaire samedi, mais tout le monde le sait.
Et justement, on se dit que les Néo-Zélandais vont arriver particulièrement revanchards, que cette défaite n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le 15 de France. On a posé la question à François Crossi.
Qu'ils aient perdu ou pas la semaine dernière, on s'attend à jouer l'équipe des Blacks. C'est une équipe qui est assez incroyable et je pense que qu'elle ait perdu ou pas, dans tous les cas, ça aurait été un combat incroyable samedi prochain. Donc à nous de faire la meilleure semaine possible pour préparer le match de la meilleure des façons. Et on a vu aussi qu'ils sont pas invincibles. Donc à nous de tirer des leçons de nos matchs, de leurs matchs pour préparer l'affrontement de la meilleure des façons. Et je pense qu'on a tous très envie de jouer ce genre de match-là, et on sera prêt samedi prochain.
Est-ce qu'on sera prêt? C'est vraiment la question. Est-ce qu'on est prêt? On a aussi posé la question à Antoine Dupont, parce que surtout qu'on reste sur deux matchs brouillons, on lisait contre l'Argentine et la Géorgie. Parole au capitaine.
Je ne sais pas si on peut savoir si on est prêt ou pas pour jouer ce genre d'équipe, mais c'est sûr que c'est un grand défi. C'est hyper motivant. On sait qu'on n'est pas favori. Ils arrivent à un leader. On sait l'équipe qu'ils ont et depuis plusieurs années maintenant avec un rugby qui est total et qu'ils maîtrisent. Mais quand on est joueur, c'est hyper motivant de pouvoir se mesurer à ces genres-là et parce qu'on n'en a pas la chance déjà que ça arrive assez rarement. Donc quand on l'a, il faut savoir la saisir et vraiment tout donner pour pas avoir de regrets à la fin du coup de sifflet.
Mais pas avoir de regrets, surtout qu'on est maintenant à moins de 2 ans de la Coupe du Monde. Et le match d'ouverture de cette Coupe du Monde, ce sera France-Nouvelle-Zélande.
Voilà, France All Black, Denis, tu les as affrontés à plusieurs reprises. On se sent comment au moment d'affronter
non, mais
tu les as affrontés en finale de Coupe du Monde, ouais, toi, en plus.
En finale, mais j'ai eu la chance de les affronter 6 fois, donc c'est un moment privilégié dans la carrière d'un joueur. Parce que finalement, tu ne joues pas souvent dans ta carrière. Après, l'appréhension, non, la peur n'est pas la même. C'est-à-dire tu as peur de mal faire contre eux, tu as peur de passer à côté. Donc, tu es quand même beaucoup plus concentré, beaucoup plus motivé. Ça ressemble, la préparation ne ressemble pas du tout à notre match. Et c'est pour ça qu'on peut penser que les Français seront prêts. Après, est-ce qu'ils vont résister à cet impact physique que va nous imposer sûrement les Blacks, vexés de leur défaite en Irlande? C'est une autre question.
Mais oui, parce que les Blacks ont été battus donc à Dublin ce week-end. Bis repetita samedi prochain. 2 défaites consécutives, ça leur est arrivé hein, dans leur
mais
histoire.
Pas en Europe, je crois.
La dernière fois, c'était il y a 1 an. Mais bon, c'est une période un peu particulière. Ils avaient perdu contre l'Australie et contre l'Argentine en suivant. Mais c'est quand même rarissime. Les Blacks qui sont en tournée quand même depuis fin août. Hein, ça fait presque 3 mois et demi, beaucoup de matchs. Est-ce que c'est finalement pas le meilleur moment pour les prendre, Pierrot?
C'est sûr que c'est plus facile de les prendre maintenant. La seule difficulté, c'est que c'est le dernier match pour eux. C'est la dernière fois qu'ils vont se retrouver ensemble avant de repartir en franchise. Et ils ont fait appel à des joueurs qui n'étaient pas présents, comme Aaron Smith, qui va venir renforcer l'équipe. Et ils n'ont plus vraiment de raison de calculer. C'est-à-dire que maintenant, ils savent que de toute façon, derrière, ils sont en vacances. Donc, ils vont jouer le match à 100%. Ce qui n'a pas forcément été le cas face à l'Irlande, où ils ont été dominés de la première à la dernière minute sur les impacts, sur le rythme. Je pense qu'ils ont dû gagner 15 duels en tout et pour tout, ce qui est rarissime pour les Blacks. Et ils ont perdu Boden Barrett, qui est incertain. Et ça change beaucoup de choses pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ils ont perdu aussi Anton Lienhard Brown, qui est l'un des régulateurs de la ligne de trois quarts. Bon, le problème, c'est que les remplaçants, c'est des monstres. Hein, Richie Munga et David Avili, qui sont 2 super joueurs. Ils sont partis à 45. Les 45 joueurs du staff du squad néo-zélandais sont monstrueux. Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus qu'ils aient perdu face à l'Irlande, parce que ça ouvre une porte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas invincibles et qu'on a peut-être vu comment les battre. Le problème, c'est qu'il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les battre. Et on a vu une équipe d'Irlande monstrueuse. Est-ce que les Bleus sont capables d'avoir un niveau d'agressivité et d'intensité aussi énorme? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, oui, ce n'est pas une mauvaise nouvelle de les prendre après 6 mois où ils sont peut-être un petit peu fraîches.
Ouais, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu en Irlande.
Oui, c'est vrai que les Irlandais ont réalisé quand même le match parfait. Ils les ont pris à la gorge. Est-ce que c'est imaginable de voir les Bleus réaliser un match avec une telle maîtrise, une telle discipline?
Non. Je sais pas. En tout cas, il faudra faire le genre de match qu'on avait fait lors de la première de Galthié contre l'Angleterre. Vous vous souvenez, on les avait laminés en une mi-temps. Est-ce qu'on a le pack pour faire ça au moment où les sélectionneurs veulent un pack plus mobile avec un flamand, avec un Walkie en troisième ligne? Parce que à chaque fois qu'on les a battus, les Blacks, c'est qu'on leur a cassé la gueule devant. Denis, tu t'es bien passé pour le savoir. Vous leur êtes passé dessus à Nantes en 86. Mais là, mais c'était violent. C'était...
Et les Irlandais leur ont fait la même chose samedi.
Mais ils sont passés à la lessiveuse des Irlandais aussi. Hein. Mais malgré tout, ils étaient capables de gagner à la fin de match. Hein,
après,
parce que, après, ça ne jouait pas grand-chose. Donc,
les Irlandais ont un système de jeu qu'on n'a pas. Ils jouent, alors eux, ils jouent sur la possession. Nous, on joue sur la dépossession, comme le dit Fabien, ou envie de mettre en place ce système-là. Les Irlandais, c'est la possession. Et ça, les Blacks, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas être privés de ballon parce qu'ils ne peuvent pas contre-attaquer, ils ne peuvent pas nous surprendre l'adversaire. Donc, ils n'ont pas le ballon du match. Nous, par contre, contre nous, il faut bien se rendre compte que les Blacks vont avoir le ballon. Ils vont avoir le ballon. Donc, si tu veux gagner la bataille du milieu, si tu veux arriver à les contrer, bien, il va falloir être physiquement très fort dans les duels. C'est-à-dire que chaque duel, c'est les renvoyer chez eux.
C'est un match charnière de l'ère Galtier, messieurs. Mmh. Parce que c'est évidemment la meilleure nation mondiale. On les joue dans 2 ans d'ouverture. On n'est que 6e du ranking là, de World Rugby. Fabien Galtier et Raphaël Ibanez disaient on veut gagner des matchs, gagner des titres, on veut être dans le top 3. Et on peut ne pas finir l'année dans ce top 3 et même loin. On peut remporter la tournée qu'on n'a pas fait, tu l'as dit, depuis 9 ans. Donc là, c'est un énorme bonus mentalement, au niveau des chiffres, du papier, tout ce que vous voulez. C'est le match principal de l'ère Galtier. Alors il dit qu'il y en a eu plein des comme ça, mais moi je pense que celui-là
il est particulier. France-Nouvelle-Zélande, ce sera donc ce samedi au Stade de France, qui cette fois sera plein. Les 80 000 places ont trouvé preneur, ça va faire du bien aux finances de la Fédé. Un samedi qui verra également l'équipe de France féminine disputer son deuxième test contre les Black Ferns, qui sont l'équivalent féminin des All Blacks, les quintuples champions du monde, battus ce week-end à Pau par les Bleus. Superbe perf, même s'il faut dire que les Néo-Z ne disputaient là que leur 4e match en 2 ans et demi, ce qui fait peu quand même pour travailler les automatismes. En tout cas, nos Français sont dans le coup.
Ils ont fait un super match.
Ouais, magnifique match. Elles disputeront, vous le savez, leur Coupe du Monde l'an prochain, en Nouvelle-Zélande. Et elles comptent bien sur la présence de leur supporter numéro 1, le président de la République, en visite aujourd'hui à Marcoussi, et à qui elles ont demandé s'il viendrait les encourager l'an prochain en Nouvelle-Zélande. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
On vous verra en Nouvelle-Zélande avec nous ? Vous viendrez en Nouvelle-Zélande avec nous ?
Non, mais cela étant, je dois aller en Nouvelle-Zélande. Alors, simplement, comme il y a le journaliste, ça dépend de...
Eh oui, ça dépend évidemment de l'élection présidentielle qui aura lieu avant. Voilà, la Coupe du Monde, justement.
Et ça flèche du temps à lui, hein.
Pardon ? Oui, chacun sa flèche du temps. Mais je ne sais pas si en conférence de presse, il se comporte comme Fabien Galtier, s'il répond juste par un mot. On verra, on va essayer peut-être dans la campagne électorale. La Coupe du Monde, allez, il est l'heure de l'évoquer justement. Voici notre rubrique French Cancan. La prochaine Coupe du Monde qui sera disputée en France, faut-il vous le rappeler, avec peut-être de nouvelles règles en matière d'éligibilité. C'est en tout cas le vœu de voir le rugby qui songe, Pierre, à modifier ses critères en les assouplissant, ce qui pourrait faire le bonheur des petites nations du Pacifique.
Et oui, c'est peut-être une vraie révolution qui se prépare dans les bureaux de World Rugby, celle des changements de nationalité sportive. Alors le principe, il est très simple. Un joueur pourrait, sous certaines conditions qui restent encore à définir, changer de pays. On pourrait en théorie voir ou revoir des joueurs évoluer sous maillot de leur pays de naissance ou d'origine. Et ça, même s'ils avaient un jour fait le choix de défendre les couleurs de leur pays d'adoption. Je m'explique, c'est le projet qui a été défendu et qui est soutenu depuis plusieurs semaines par de très nombreux joueurs. Lopetit Timani, par exemple, international australien né au Tonga. Ou plus étonnant, Ngami Lomapé, international néo-zélandais né en Nouvelle-Zélande, qui lui aussi défend l'idée. Bon, ça c'est plus étonnant. Parmi les pays qui pourraient sortir grands vainqueurs de cette potentielle redistribution des cartes, les Tonga, parce que longtemps pillés par les voisins, l'île du Pacifique pourrait frapper un grand coup en rapatriant Charles Piutau, Malakai Fekitoa, Cooper Vuna, Vaya Fifita, Frank Alahi et surtout Israël Folau, et oui, soit sélectionné à 73 reprises avec les Wallabies, mais écarté pour ses prises de position homophobes en 2019. Il rêve désormais de participer à la Coupe du Monde en France. Et évidemment, tout à Ikefou, le sélectionneur tongien, est ravi de cette possibilité qui s'ouvre à lui. Il dit « Nous n'avons pas les moyens de nous passer des joueurs de son talent et le prodige aurait déjà donné son accord verbal à son pays d'origine ». L'argument mis en avant pour justifier de ce passage éventuel d'une sélection à une autre, il est très simple. Les Tonga ne peuvent pas à la fois perdre leurs meilleurs éléments et continuer à être compétitifs. C'est donc pour un rugby plus équilibré et plus juste que les joueurs du Pacifique militent. Reste une question, cette évolution n'aura-t-elle que des conséquences positives ? Bon, moi je sais que je suis particulièrement tordu, mais en changeant cette règle, on ouvre la porte aussi au changement de nationalité dans l'autre sens. Et oui, c'est logique. Hein. Et donc si un joueur brille avec les Tonga, les Fidji, les Samoa, pourquoi ne pourrait-il pas jouer avec la France ou la Nouvelle-Zélande dans un futur plus ou moins proche ? Idem si les joueurs qui ont fait un choix radical, douloureux, de représenter un pays qui n'est pas le leur, eh bien, n'aurait plus aucune conséquence, eh bien, est-ce que ça ne rendrait pas le choix plus facile d'aller représenter un autre pays ? Enfin, dernière chose, Malakai Fekitoa, par exemple, lui a décidé de tourner le dos au maillot néo-zélandais pour privilégier l'argent avec Toulon. Et si ça fait 5 ans qu'il n'a plus été sélectionné par les Blacks, c'est uniquement son choix à lui et à lui seul. Je trouve ça assez maladroit de vouloir réclamer le maillot tongien après ça. Reste que si cette règle passe, si les conditions d'éligibilité, c'est pas facile à dire, changent, l'équilibre des poules de la Coupe du Monde risque d'être totalement bousculé. Et pourquoi rêver, ne pas voir une équipe du Pacifique en quart de finale de Coupe du Monde, du jamais vu depuis 2007, et les Fidji, c'était déjà en France.
Messieurs, que pensez-vous de cette règle ? Ça pourrait changer la donne quand même.
Moi, je trouve que c'est une très bonne règle.
Très bonne règle.
Ah ouais, moi, d'accord. je suis content parce que c'est vrai. Le fond, la réalité, c'est qu'ils sont pillés. Hein, donc, effectivement.
Mais oui, mais comme le disait Pierrot, il y a peut-être des oui, côtés un peu tordus dans cette règle.
Absolument.
Elle peut être manipulée. Et...
Moi, j'ai du mal à croire que ça passe, mais.
Il faut quoi, une majorité
Alors, ce sera discuté à World Rugby dans 15 jours.
On va demander à Denis de se rendre.
Apparemment, c'est en bonne voie.
Ce sera en bonne voie. La limite majeure de cette règle-là, ça va être les conditions d'éligibilité. Parce qu'il y a déjà des moyens aujourd'hui de changer de nationalité sportive. Mais pour ça, c'était un parcours du combattant invraisemblable. On pense à Malakai Fekitoa, qui a dû aller faire des tournois de l'HSBC 7 pour de nouveau être sélectionnable pour les Tonga. Et techniquement, il pourrait déjà disputer la Coupe du Monde, même si cette règle ne passait pas. En revanche, la règle, il y a des cas de figure très différents. Israël Folau qui a fait 75 sélections avec les Wallabies, qui puisse jouer pour les Tonga, c'est un scandale. En revanche, qu'un gars comme Franck Alaï, qui a 3 sélections avec les Blacks il y a 10 ans, qui puisse représenter son pays là où il est né, bon, bah, ce serait pas vraiment horrible, quoi. Ce serait assez logique.
Comment vous voulez que les gens ils comprennent notre sport Non, mais ils comprennent rien aux règles, ils comprennent rien aux bonus qui sont différents d'un pays à l'autre ou d'une compétition à l'autre. Alors maintenant ils vont dire, mais lui il jouait pas avant pour. Et puis nous on a des Néo-Z, des Sud-Africains qui sont en équipe de France. On est fort quand même. Pour moi.
Tu as raison. Un dernier mot pour évoquer les awards World Rugby, puisqu'on a les nominés pour le titre suprême et qu'on a un Français dedans.
Cocorico,
Antoine Dupont, en bonne compagnie avec Hooper et Kerevi, les Australiens.
Hein.
Pardon ?
Il va tous les mettre d'accord.
Ouais, ben d'accord.
Il serait ce soir.
Et l'anglais Itoje.
Non, ça c'est
Non, ça c'est pas les mêmes choses. Oui. Ça évidemment, Manu Bastiard, je crois qu'il va chaud. Il va le filer à quoi le
Non, le chaud de.
Ah bon, non.
À part Denis
partout.
Mais l'un de l'autre, quoi.
Comment il pèse. Il pèse dans les
babas. Et tu vas nous régaler au resto à force de croquer là tout le temps.
Non, mais c'est l'effet babas.
Tu vas nous faire croquer à nous un peu.
Dire qu'il voulait reparier aujourd'hui.
Il est même en photo dans Midi Olympique.
C'est quand d'ailleurs ce resto, les gars?
Moi, je suis disponible jeudi soir.
Quand vous voulez, c'est gratuit.
Ah, moi aussi.
Et j'ai écouté Christophe Paille aussi, il est avec vous sur les paris.
On va rendre l'antenne.
Et toi, t'as pas parié, je te signale. Donc tu n'es pas invité. Peut-être par Denis Charvet parce qu'il est très riche.
Mais toi aussi, t'as parié. T'étais d'accord avec lui. J'ai écouté.
Il y a une manipulation de Pierre Amiche qui a truqué. Bref, allez, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, il y aura un petit France-Nouvelle-Zélande samedi prochain à 21h. Vous y serez, messieurs.
Oui, avec Wiltshire,
Charvet, Paturo, Templier, nous avec Pierrot, on sera dans notre télé comme d'habitude.
Oui, sous un petit plaid avec une soupe Roico en attendant le resto de Denis.
Vous avez les ralentis à la télé, c'est magnifique.
Rendez-vous donc lundi prochain et dès samedi sur RMC pour France-Nouvelle-Zélande. Bonne semaine à tous. Ciao.